Ce soir, nous recevons Dominique Vermersch, qui est ingénieur agronome, statisticien économiste, docteur en sciences économiques. Il est depuis 1998 directeur de recherche à l'INRA et depuis 1995 professeur invité à l'UCL, donc Université de Louvain-la-Neuve en Belgique. Il est responsable d'une équipe de recherche intitulée « Politique environnementale et risques », spécialiste de l'économie de l'agriculture, de l'économie de l'environnement et de l'éthique économique et sociale. Il est l'auteur de nombreux articles, et d'un ouvrage que vous pouvez trouver, publié chez Economica, intitulé « Économie politique agricole et morale sociale de l'Église ». Publié donc en 1997. Voilà, je vous donne la parole maintenant à M. Vermersch.
Voilà.
Merci.
Attendez, avant d'applaudir. Voilà. Alors, bonsoir à toutes et merci d'être présents pour cette conférence donc intitulée « Nature et agriculture ». Et je vous propose en avant-première cette petite citation de Bernard Palissy que vous avez ici à l'écran. Il n'est nul art au monde auquel soit requis une plus grande philosophie qu'à l'agriculture. Et on pourrait peut-être se poser comme question d'entrée de jeu, eh bien pourquoi ? Et peut-être l'une des raisons qui va traverser cet exposé, eh bien c'est que justement l'agriculture peut se faire et est disponible pour être pour chacun d'entre nous aujourd'hui, que nous soyons ou non agriculteurs, une agriculture qui soit une philosophie de la vie. Alors, durant cet exposé, il n'y aura pas d'image, il n'y aura pas de vidéo, et je vous invite à ouvrir vous-même vos images, vos albums photos, votre album de famille, vos souvenirs d'enfance, votre imaginaire, à travers des images peut-être nostalgiques de l'agriculture, du champêtre, voire de vous y attarder pendant cet exposé, si vous trouvez peut-être qu'il soit un peu barbant. Mais je l'espère pas. Alors, nature et agriculture, c'est une histoire commune, très brève, à l'horloge de l'univers, près de 10 000 ans à celle de l'humanité. Histoire de nécessité et d'adversité, de tumulte, mais également de prouesse. Histoire singulière et plurielle, tellement entrelacée aujourd'hui que leur devenir respectif semble ne pouvoir échapper à une destinée commune. Pour le meilleur comme pour le pire. Certains d'ailleurs seraient pressés d'en finir. L'agriculture, comme dernière activité, entre guillemets, à libéraliser, n'a-t-elle pas à se plier aujourd'hui au sens d'une fin de l'histoire où l'échange et l'intérêt marchand expliqueraient in fine, en définitive, toute réalité sociale ? L'inéluctable prôné par les uns aujourd'hui fait cependant l'objet d'une résistance active pour les autres, et non seulement les paysans. Au-delà de l'ambivalence, voire du paradoxe de l'événement, l'échec de la conférence de Seattle de novembre 1999, préalable à ce nouveau cycle de négociations commerciales internationales, en est une nouvelle illustration. De bouc émissaire retardant une salutaire libéralisation des échanges, voilà désormais que l'agriculture paysanne, celle des terroirs, terroirs des pays développés, entendons-nous bien, agriculture de la multifonctionnalité, quel terme compliqué, agriculture celle qui prétend cultiver et garder l'environnement, voilà que celle-ci fédère les résistances culturelles à la tutelle seigneuriale de la globalisation des marchés. Cette jacquerie postmoderne bénéficie d'avocats académiques qui n'hésitent pas à voir et formaliser le maintien d'agriculture plurielle à l'échelle de la planète entière comme la pierre angulaire d'une réorganisation de la mondialisation des échanges. Si donc nature et agriculture semblent nouer une part de leur destin par le biais du marché, ce terme reviendra souvent dans l'exposé, eh bien ce marché, cette dynamique marchande se doit de contribuer tant à l'équité sociale qu'à la connivence entre l'homme
et son environnement naturel. Bref, une dynamique marchande, garante tant du contrat social que naturel, pour reprendre l'expression de Michel Serres. En attendant ce jour, la situation actuelle demeure ambiguë, voire paradoxale. D'une part, en effet, les politiques agricoles accordent désormais une plus large place au marché, tant pour les produits agricoles de base que pour les biens et services coproduits par l'agriculture. Qualité des produits, pollution, paysage, aménité environnementale. Et d'autre part, ces mêmes politiques agricoles sont mises en demeure de pallier l'insuffisante rémunération des producteurs fournis par ces mêmes marchés. Parallèlement, l'empreinte agricole sur notre environnement naturel s'est profondément transformée. Une récente monographie, issue de l'INRA et de l'INSEE, montre à quel point les réalités du monde rural se sont éloignées de nos souvenirs d'enfance, voire de nos nostalgiques jardins d'Éden. Chiffre à l'appui, il est mentionné que l'agriculture ne fait plus le rural, désormais plus ouvrier et industriel, que ce même rural se partage souvent sans ménagement entre espaces producteurs et espaces consommés. Bon gré, mal gré, le rural se voit sollicité pour de nouveaux usages, complément ou substitut d'une activité agricole qui reste cependant spatialement dominante. Et Michel Serres, une fois encore, n'hésite pas à affirmer que le plus grand événement du XXe siècle reste sans conteste la disparition de l'agriculture comme activité pilote de la vie humaine en général et des cultures en particulier. Alors, dans ce vaste aggiornamento rural, les préoccupations dites environnementales revendiquent une préséance où l'agriculture fait souvent figure d'accusée. Elle consomme et produit des ressources et actifs naturels, l'eau, le sol, l'air, le paysage, qui sont à partager avec d'autres utilisateurs, des touristes, des citoyens, des consommateurs, à partager en dehors souvent d'un échange marchand, de par la nature même de ces biens. Et effectivement, si le prix de marché n'est pas systématiquement un juste prix, ce prix de marché a au moins le mérite de visibiliser et d'expliciter la transaction, quitte ensuite à l'encadrer juridiquement. En l'absence de marché, voire surtout d'un cadre juridique d'appropriation de tous ces biens qui sont coproduits par l'agriculture, cette justice de l'échange et du partage est plus difficile à faire respecter et l'actualité quotidienne nous le montre. Et donc, pour dépasser le dialogue de sourds ou la foire d'empoigne actuelle, l'économie de ces échanges reste souvent à concevoir, voire à restaurer, ce qui pourrait être justement l'un des objets nouveaux d'une économie rurale à réhabiliter tant au niveau factuel des faits qu'au niveau académique. Le challenge est posé, il convient maintenant d'instruire le dossier et les propos qui vont suivre tentent simplement d'y contribuer. Et donc je vais aborder cet exposé après l'introduction en 4 points que je vous indique ici maintenant. Tout d'abord, un bref historique. Dans un 2e point, je verrai comment les politiques agricoles et environnementales tentent aujourd'hui de résoudre et de conjuguer à nouveau nature et agriculture. Dans un 3e point, je verrai comment tout cela a pour trame une évolution des rapports entre l'homme et la nature. Et le 4e point, nous verrons ensemble comment cela suggère, cela anticipe des nouveaux modes d'appropriation du vivant et de la nature. Et je conclurai enfin par une référence au jubilé en cette année 2000. Alors, premier point, voyons ensemble un bref historique des rapports tumultueux aujourd'hui que nous avons entre la nature et l'agriculture. L'époque n'est pas si lointaine, en effet, où l'agriculture apparaissait plutôt garante de la préservation du milieu naturel. loin de s'enivrer dans les bienfaits mythiques d'une nature sauvage, eh bien l'homme, au cours des siècles, contribua par son labeur, à façonner des équilibres écologiques relativement stables et moins hostiles. On sait bien que la notion de milieu naturel cède davantage la place aujourd'hui à celle de patrimoine naturel, signe visible d'un ordre et d'une harmonie possible entre les hommes et la nature, harmonie à laquelle participe encore largement l'économie agricole. Ramené pourtant à l'échelle européenne, ça sera mon premier sous-point, l'histoire récente des faits agricoles se démarque cependant de cette vision champêtre, fondée pour l'essentiel sur la quête d'une autosuffisance alimentaire et d'une amélioration des revenus. La politique agricole commune, la célèbre PAC, initiée au début des années 60, constituera une formidable force d'expression et de développement des innovations technologiques agricoles, dont vous avez des illustrations au cours de ce salon d'agriculture. Cela dit, le recours à des intrants industriels, qu'il s'agisse par exemple des engrais minéraux, des pesticides, se verra désormais accusé de la dégradation de la qualité des eaux et des sols. Ces derniers sont doublement sollicités comme support de production et d'assimilation de résidus non désirables, tels que parfois les boues d'épuration. Certains résidus, tels que les métaux lourds, vont transiter dans la chaîne alimentaire et ne sont pas sans effet, on le sait, sur la santé humaine. Les pratiques agricoles intensives fragilisent la biodiversité animale et végétale et ont porté atteinte, via les impératifs de la mécanisation, à l'esthétique de nos paysages de la plupart des régions européennes. Alors que la transcription imprudente de ces technologies intensives dans les pays en développement fut parfois, et est encore parfois, à l'origine d'une destruction irréversible des sols cultivés. Pollution, érosion, paysages entretenus ou dégradés, atteinte ou contribution à la biodiversité, un point commun essentiel rassemble ces différentes coproductions de l'agriculture. Et ce point essentiel, c'est quoi ? C'est qu'il s'agit d'interactions entre producteurs, notamment agricoles, et consommateurs, des interactions qui, au départ, à l'origine, s'effectuent en dehors du marché, en dehors d'un échange marchand explicite. Raison pour laquelle l'économiste que je suis va définir toutes ces coproductions, et on le voit bien, soit positives, soit négatives, va définir ces coproductions comme des externalités, c'est-à-dire des réalités qui se passent en dehors, à l'extérieur du marché. L'origine des nuisances agricoles se situe pour l'essentiel dans le processus d'intensification des technologies, c'est-à-dire cet accroissement du rapport entre, d'une part, les facteurs d'origine industrielle utilisés par l'agriculture et, d'autre part, la surface. Il s'agit en quelque sorte d'un mouvement d'affranchissement agricole par rapport à son support naturel, la terre nourricière. La réciprocité qui liait depuis des siècles ces technologies et la terre s'est effacée peu à peu au profit d'une dualité entre cette même technologie et l'environnement des prix et le système économique, avec un aléa économique qui s'est largement substitué à l'aléa économique. L'agriculteur est beaucoup plus contraint aujourd'hui à cet aléa économique, l'aléa des prix, qu'un aléa climatique. Et ce processus d'intensification s'avère lié à un autre mouvement très important, qui est un mouvement de spécialisation de plus en plus poussé des systèmes, tant au niveau de l'exploitation, de la ferme, qu'au niveau de bassins régionaux de production. Et on pourrait simplifier à l'extrême en disant que dans notre France, des céréales et des plantes industrielles telles que la pomme de terre, la betterave, dans le centre-nord, des productions animales dans le Grand Ouest, quelques petits terroirs vitivinicoles, et puis le reste, ma foi, au bon vouloir de l'aide publique. Donc, une géographie agricole française très simplifiée. Et en outre, on peut mieux préciser désormais comment ce double mouvement d'intensification et de spécialisation a été catalysé par la PAC des 30 glorieuses agricoles, c'est-à-dire entre 62 et 92. Et ce sera mon deuxième sous-point, à la fois de caractériser cette évolution structurelle de l'agriculture européenne en disant qu'elle est passée d'une économie de gamme à une économie d'échelle que je vais préciser. Un regard toujours historique des systèmes de production nous enseigne en effet, et vous le savez peut-être mieux que moi, que la coordination d'activités au sein de l'exploitation agricole préexistait à la généralisation des atteintes portées à l'environnement. L'association agriculture-élevage se situe comme une sorte d'archétype, comme modèle de cette coordination, qui, d'une certaine manière, transposait dans la sphère technique la vision organique propre du vivant. On le sait bien que les productions animales étaient traditionnellement associées aux cultures. La disponibilité de sous-produits végétaux, comme aliments du bétail, les pulpes de betteraves, la paille, l'utilisation des litières et d'éjections animales pour le maintien de taux de matière organique, traduisaient cette coordination d'activités internes à la firme agricole. Autrement dit, les co- ou sous-produits d'une activité étaient utilisés comme intrant, comme facteur d'une autre activité productive. Il y avait une synergie technologique que l'économiste va qualifier toujours d'externalité, elle passe au départ en dehors du marché, mais des externalités pécuniaires, c'est-à-dire des externalités déjà marchandisées et qui pouvaient s'exprimer de diverses manières. On peut citer l'exemple, par exemple, des rotations culturales, la succession temporelle, de diverses cultures qui contribuaient à briser les cycles de parasites végétaux ou animaux et qui constituaient un facteur de protection phytosanitaire. Et on se rendait compte aussi que cette association entre agriculture et élevage, produisait d'autres types d'externalités positives qu'on va qualifier de technologiques et qui sont, par exemple, l'entretien, la production de paysages. Nous savons bien que le bocage normand, le bocage breton, est fondé sur cette association entre agriculture et élevage. Il y a d'autres externalités positives très importantes, telles que les niches écologiques, la régulation et la dynamique des eaux. On s'étonne aujourd'hui d'avoir des inondations plus fréquentes durant l'hiver, dues au fait de l'arasement des haies qui contribuait auparavant à freiner la dynamique des eaux. Et donc, jusqu'à la fin des années 50, l'agriculteur trouvait un intérêt économique à associer les productions. Un intérêt économique à associer, et cet intérêt économique, l'économiste va le qualifier d'économie de gamme. Ces économies de gamme sont tout simplement des diminutions du coût de production lorsqu'on associe les productions. Lorsque j'associais la production de porc et la production de céréales, j'utilisais mes céréales pour produire des porcs, les déjections animales des porcs étaient utilisées comme fertilisant organique, la paille des céréales était utilisée comme litière, etc. Et donc l'association des productions contribuait à diminuer le coût global des deux productions. Malheureusement, le progrès technique et la hiérarchie des prix agricoles qui ont présidé à ces 30 glorieuses agricoles, 62-92 pour résumer, ont contribué à l'abandon progressif des diverses complémentarités évoquées précédemment. Le soutien des prix céréaliers favorisa l'adoption d'innovations telles que les pesticides, certes beaucoup plus efficaces que la simple rotation des cultures. La rentabilité du coûteux processus de sélection des espèces animales et végétales nécessite une précision très fine dans l'alimentation végétale et donc éviter et rendre une sorte d'éviction par rapport aux fertilisants organiques, aux déjections animales. En outre, la pénibilité du travail associé à l'élevage faisait qu'en sorte, si on pouvait s'en affranchir, on s'en affranchissait. Et on se rend compte aujourd'hui, dans certaines régions, d'une diminution du taux de matière organique des sols due à l'abandon, parfois irresponsable, de l'élevage. Et donc, vous vous rendez bien compte, tout simplement, que la spécialisation productive au niveau de la ferme et transposée mécaniquement au niveau des régions agricoles explique eh bien, une érosion progressive de ces économies de gamme. Et donc, cette innovation technologique a soustrait progressivement à la ferme une large part du process agricole et agroalimentaire qu'elle utilisait et qu'elle exploitait auparavant. La ferme, l'acte de production au niveau de la ferme, eh bien, se réduit à un petit, je dirais, maillon de la production agroalimentaire. Et donc, on a eu, je dirais, un délaissement de la gamme de produits au profit de l'échelle, c'est-à-dire d'un accroissement très important de la taille des exploitations agricoles. J'en viens à mon dernier sous-point de ce bref historique, en disant qu'à la question des externalités, eh bien, l'économiste répond par internalisation. C'est-à-dire qu'il va proposer des politiques publiques qui vont viser à intégrer ces diverses externalités qu'on a vues en une ou plusieurs interactions marchandes. Et donc, on s'était dit, avant 92, avant cette réforme de la PAC, eh bien, en baissant le prix des céréales, eh bien, finalement, j'allais décourager cette intensification de les productions et que donc, d'une certaine manière, eh bien, la réforme de la PAC de 92, qui contribuait notamment, pour résumer, à baisser les prix des céréales, allait être une réforme verte. On se rend compte aujourd'hui que, près de 8 ans après cette réforme, que l'agriculture intensive n'a pas été véritablement découragée, tandis que le nouveau système d'aide publique, des aides directes à l'hectare, se résume en une rente foncière différenciée suivant les potentialités agronomiques des terres et qui ne rémunère en contrepartie aucune préservation de l'environnement. Dans les régions les mieux loties, cette rente foncière est désormais capturée dans les transactions foncières. Pour donner un seul exemple, dès 1993, première année de mise en place de la réforme, eh bien le prix des terres en France, dans les régions les mieux loties, a commencé à réaugmenter après plus de 15 ans de baisse. Et donc cette hausse contribue aujourd'hui à alourdir le coût de l'installation des jeunes agriculteurs. Un simple chiffre, depuis 1992, plus de 200 000 exploitations et 300 000 actifs ont disparu en France. Et donc, on se disait pourtant, ben finalement, cette réforme de 1992 était l'occasion rêvée pour indexer le soutien public à l'agriculture eh bien, à sa coproduction environnementale. Tout cela peut paraître étonnant, pour ne pas dire choquant, mais l'est beaucoup moins dans une relecture que je vais qualifier de causienne, due à l'économiste Cause, des politiques agricoles et environnementales récentes. Et donc j'en viens là à ma deuxième grande partie, que j'ai intitulée donc « La nature marchandisée ». Cause, Nobel 91 d'économie, a proposé une analyse des externalités qui pose au préalable le problème juridique d'attribution. Qui est responsable de la pollution ou encore qui en est le propriétaire? L'existence d'externalités traduit très souvent en fait l'absence de droits de propriété correctement établis du fait que ces externalités sont souvent des biens publics. À qui appartient le paysage? À qui appartient la pollution? Et donc vous voyez la difficile appropriation de ce type de biens. Appropriation parce que souvent, ces biens sont des biens négatifs. Et à supposer que la règle de responsabilité soit définie, et on fera référence au fameux principe pollueur-payeur, il s'agira donc d'internaliser l'externalité, c'est-à-dire de l'intégrer à une dynamique marchande. Et donc Cause, cet économiste, a proposé quatre modes de solutions que je vais essayer d'appliquer à l'agriculture. Et pour vous situer, eh bien, ces quatre solutions que j'ai présentées résultent d'une comparaison des coûts associés à la mise en place de l'une ou l'autre de ces solutions. La première solution, c'est ce qu'on appelle le marchandage des droits. On se dit, ben, finalement, il s'agit d'un réaménagement par le marché des droits de propriété associés aux externalités. On va acheter ou vendre, par exemple, des droits à polluer. Et donc, cette solution est à l'esquisse concernant, par exemple, le marchandage des droits à émettre des gaz à effet de serre au niveau international. Et donc, pour dépasser un petit peu ce jargon d'initié, eh bien, prenons l'exemple de l'eau du robinet, où se baignent occasionnellement quelques ions nitrates. L'attribution des droits et la définition de responsabilité qui en découlent doivent tout d'abord être clairement établies. Soit il s'agit d'un droit à la santé du consommateur, impliquant une eau potable non polluée. Ce dernier serait alors prêt à marchandiser ses droits par le biais d'une baisse du prix du produit, soit encore d'un droit du producteur à produire librement son produit, quitte à marchandiser ce droit au travers, cette fois, d'une hausse du prix du produit. Or, évidemment, dans le cas de l'eau potable, la répartition initiale des droits a plutôt un caractère implicite, qui est contesté aujourd'hui par le consommateur. Ceci, en effet, assure l'essentiel de la facture d'eau. Entre 90 et 95, le prix moyen de l'eau en France a augmenté de près de 60%. Ainsi, les émetteurs de l'externalité négative sont très nombreux, et l'agriculture est la principale source des nitrates et pesticides dans l'eau potable et demeure pour une large part encore absente de la transaction des droits liés aux externalités. Et donc on voit bien que cette première solution paraît très difficile à mettre en œuvre en agriculture. J'en viens à une deuxième solution qui est la coordination interne, intra ou inter-entreprise, à laquelle on va associer des coûts d'organisation interne. Cette deuxième solution consiste en une coordination intra- ou inter-entreprise contribuant à un meilleur bilan environnemental. Peut-on concevoir, par exemple, de nouvelles modalités de coordination d'activités au sein des firmes agricoles, atténuant les effets externes négatifs et incitant de nouveau à l'utilisation des synergies technologiques que nous avons vues précédemment? On peut imaginer, par exemple, une modification des prix relatifs agricoles associée à de nouvelles innovations technologiques qui favoriseraient de nouveau le modèle canonique agriculture-élevage, la fertilisation organique. Sans chercher de prime abord à produire ou réduire certaines externalités négatives, cette procédure était déjà en œuvre dans la réforme de mai 92. La baisse du prix des céréales avait pour effet de favoriser leur utilisation dans l'alimentation animale. Et donc, ce mouvement s'effectue malheureusement surtout en amont de l'agriculture, mais d'autres niveaux de coordination seraient à promouvoir afin de recycler les coproduits potentiellement polluants, tels par exemple que le lisier de porc. Et donc, on voit bien ici que dans cet exemple précis, le traitement de l'externalité demande une coordination soit interne à la firme, ce qui nécessitera une certaine taille et l'adoption d'innovations technologiques, soit entre plusieurs firmes, si l'on envisage un équilibre agriculture-élevage au niveau d'une entité écologique pertinente. Vous me direz, tout cela, c'est un peu illusoire, eu égard notamment à la faible réversibilité de l'intensification et de la spécialisation des systèmes. Raison pour laquelle on peut envisager une troisième solution, qui est l'intervention directe des pouvoirs publics. Et donc les pouvoirs publics, le décideur public, va mettre en place une réglementation destinée ou un système de redevance susceptible d'infléchir les technologies de production mises en œuvre. Et donc on parlera de système de taxation, de système de redevance, mais l'économiste Cause nous mettait en garde sur les écueils d'une solution finalement administrative avec parfois des coûts administratifs importants. Et l'on sait bien en agriculture que l'imposition d'une réglementation publique risque d'affecter la compétitivité coût des entreprises agricoles confrontées aujourd'hui à une concurrence élargie. Le décideur public va en tenir compte, étant soumis lui-même à des pressions diverses, organisations professionnelles, collectifs de consommateurs, associations écologistes, qui chercheront à influer de fait sur l'attribution finale des droits de propriété associés aux externalités. Et donc cette troisième solution, pour l'instant, le décideur public, soit français, européen, a été relativement timide pour la mettre en œuvre. Auquel cas, on envisage une quatrième solution. Cause envisage en effet des situations où la comparaison des coûts associés à l'une ou l'autre des trois solutions précédentes avec le bénéfice qui en résulte conduit à ne rien faire du tout. Et on pourrait résumer finalement cette quatrième solution en disant « agriculture et environnement, cause toujours, tu m'intéresses ». Et donc, plusieurs arguments expliquent ce choix. D'une part, difficulté d'évaluer physiquement les dommages, ce qui rend l'estimation des coûts difficile. Et donc, cette quatrième solution, que j'ai intitulée le « laisser-faire », se justifie d'autant mieux pour certains qu'en l'absence de toute réglementation, tout se passe comme si la dynamique marchande propose à moyen terme, une internalisation naturelle des externalités. Et donnons un exemple, dans le cas d'un taux élevé de nitrate ou de pesticides dans l'eau potable, que l'on accroisse la consommation d'eau en bouteille, d'où une spécialisation régionale accrue, la Bretagne en production porcine intensive et l'Auvergne en eau minérale en bouteille. On peut rire, mais quelque part, ces tendances sont à l'œuvre actuellement. Et jusqu'au début des années 80, on peut considérer que cette quatrième solution était celle adoptée par le décideur public en matière agricole. À cette date, le souci de l'environnement se substitue peu à peu à certains objectifs initiaux de la PAC. La réforme de 92 va inaugurer un nouveau soutien public sous forme d'aide directe et qui s'interprète, on l'a vu, comme une attribution de droits à produire implicite, différenciée régionalement. Et de fait, au moyen d'une compensation, prime à l'hectare, prime au gel, le décideur public, rachète tout ou partie de ce droit à produire. Et lorsqu'on observe aujourd'hui la faible amplitude des mesures agri-environnementales, environ 3,5% du total des aides européennes, force est de constater que la reconnaissance des droits à produire prévaut sur celle des droits liés à la préservation de l'environnement. Et cette hiérarchie qui est reconnue et entérinée par le décideur public vise à maintenir des avantages comparatifs de production, vise à maintenir une veille technologique, une capacité exportatrice de l'agriculture française. Et donc, elle s'explique. Et j'en viens donc au dernier sous-point de ma deuxième partie, ce qu'on appelle aujourd'hui, en termes politiquement corrects, cette philosophie du découplage. Lorsqu'on en regarde très rapidement l'accord de Berlin de mars 1999, qui va prolonger la réforme de 1992, la loi d'orientation agricole de juillet 1999, les négociations prochaines, peut-être prochaines, de l'OMC, certains ténors avertis de la question agricole irait jusqu'à dire que ce vaste aggiornamento européen relève pour partie d'une sorte de jubilé social, certes bien lissé politiquement, mais qui peut s'apparenter à terme à une véritable réforme agraire. À titre d'illustration, le revenu céréalier est constitué pour une large part d'aides directes. Si le souci d'équité l'oblige, une nouvelle répartition administrée des terres n'est plus en fait nécessaire, puisque lui serait équivalente une nouvelle répartition des aides. Et c'est justement ce qu'esquisse ce fameux contrat territorial d'exploitation, pierre angulaire de la loi d'orientation agricole, en proposant finalement, en étant fondé sur une répartition dégressive et plafonnée par rapport à la surface, fonction de critères environnementaux et de préservation de l'emploi. Et donc finalement, l'exigence de justice sociale pourrait donc être assurée par une justice procédurale dictée par une tutelle publique qui possède donc aujourd'hui cette philosophie dite du découplage. Que veut-elle dire ? Couplage du soutien public à la préservation environnementale et découplage de ce même soutien au volume produit. Cela ressort, me direz-vous, de l'évidence, du bon sens et ne peut que restaurer l'équité du soutien. En attendant ce jour, le couplage à des objectifs environnementaux s'avère difficile, dans la pratique, peu efficace et coûteux budgétairement. Autant de raisons, pourrait-on dire, pour lesquelles l'éco-conditionnalité des aides est laissée à la discrétion de chacun des États membres européens. Principe de subsidiarité oblige. Le découplage dissocie encore davantage les fonctions agricoles productives et environnementales, qui demeurent, qu'on le veuille ou non, des activités jointes pour le meilleur comme pour le pire. On arrive aujourd'hui à une situation où les modalités du soutien dictées par les contraintes à l'exportation et ce maintien d'une vocation entre guillemets exportatrice, eh bien conduit à un assolement européen, c'est-à-dire à une répartition des cultures véritablement dénaturée. Le recours à un surcroît d'irrigation pour accéder à des aides directes plus élevées, un gel des terres modulable, mais qui a peu à voir avec une jachère bénéfique au maintien de la fertilité des sols. Et donc cette vision du découplage s'appuie sur une prise en compte grossière des jointures de production et se trouve écartelée entre les impératifs de compétitivité de l'agriculture européenne. Et enfin, et ce n'est pas la moindre des choses, ce découplage entérine une rémunération apportée par les prix qui tend à s'aligner sur les cours mondiaux, soldés et chroniquement instables. Et dans ce schéma, eh bien, les aides directes à partir de demain représenteront 85% du revenu des producteurs de lait, 108% de celui des céréaliers et 199% du revenu des éleveurs bovins. Le paysan européen ne serait-il donc qu'un incompétent lourdement assisté ? Mené à son terme, le découplage s'avère donc impuissant à soutenir une parité de revenus agricoles ad extra et ad intra. Et donc le discours mécaniste qui s'impose aujourd'hui entretient l'illusion de la compatibilité. La libéralisation des marchés ne peut être que vertueuse d'un point de vue environnemental, comme l'efficacité marchande garante de l'équité sociale. Discours qui ne fait plus recette aujourd'hui, événement récent oblige. Un détour de production s'impose afin de dégager les perspectives d'avenir. Et j'en viens donc à mon troisième point, que j'ai intitulé de manière peut-être un peu pompeuse « La nature demeure éthique », en rappelant notre vocation à tous d'écologistes et de jardiniers. On le sait bien aujourd'hui que ce formidable développement agricole a été porté par une sorte de philosophie de la nature, réduisant souvent celle-ci à une simple mécanique physico-chimique au sein de laquelle pouvaient s'opérer de vastes substitutions entre techniques mécaniques et techniques organiques. Selon les cas, la mécanique allait s'avérer plus efficace, le machinisme au détriment des bœufs, la traction animale. Ou cette technique ne serait qu'une copie peu conforme aujourd'hui de l'organique, les engrais de synthèse aux grandes dames de la fertilisation organique. Cette vision cartésienne d'une nature possédée et expérimentée lui ôte parallèlement toute finalité. La nature, comme le dirait Lalraire, serait axiologiquement vide, sans valeur. Et cette emprise technique s'avère aujourd'hui angoissante. Emprise superficielle et provisoire, comme le rappelle l'étymologie même du terme technique, l'idée d'une forme qui ne peut s'imposer durablement, cette emprise a des accents parfois irréversibles et qui exigent de l'homme la maintenance délicate et inédite d'une nature artificialisée, d'une technonature, pour reprendre les termes de Roqueplot. C'est une emprise partielle, à la mesure d'une rationalité économique myope et parfois maligne, qui conduit à une nature révoltée, plus tyrannisée que gouvernée par l'homme. Rappelons-nous l'exemple récent de la fabrication et la reconversion parfois frauduleuse des farines animales, qui s'appuyait sur l'extraordinaire capacité de recyclage des mécanismes naturels pour résorber les nuisances potentielles que ces farines pouvaient induire sur la santé animale et humaine. Tout se passe comme si, finalement, la nature ne veut se faire plus longtemps le complice involontaire de pratiques douteuses, alors qu'il pourrait s'agir d'une nature de don. Nous sommes effectivement tous un peu écologistes et jardiniers. En attendant ces jours meilleurs, la contestation écologique, s'est disciplinée dans les deux sens du terme, écologie au sens de discipline scientifique et courant écologique qui a pris une allure politique tout à fait crédible. Prenant le pas sur la mécanique classique, la physique de la relativité, des quantas, inaugure depuis longtemps maintenant une nouvelle philosophie de la nature où prédomine les idées d'interaction, de système, de coévolution. L'épistémologie qui en découle conduit alors logiquement à sacrer l'écologie comme une science du complexe, invitant l'homme à subordonner plus subtilement, plus finement, eh bien, ces diverses techniques aux causalités naturelles. Spéculation philosophique de haut de gamme, me direz-vous. Nous en avons aussi, chacun d'entre nous, des spéculations tout aussi suggestives et opérées au café du commerce. Elles véhiculent plus ou moins consciemment cette nostalgie du Jardin d'Éden, illustrée par nos attentes pressantes à l'égard de l'agriculture. Le maintien de prix raisonnables, une sécurité sanitaire optimale, la sauvegarde d'une agriculture paysagère, la préservation impérative des ressources naturelles que sont l'eau et le sol. Mais au-delà de ce caractère nostalgique, l'évocation du Jardin d'Éden se révèle autrement plus pénétrante. Se représenter la nature par un jardin ne renvoie-t-elle pas à l'idée d'une sorte de préaménagement de celle-ci que l'homme aurait à poursuivre librement, sans trahir et sans défigurer. À la vision duale de l'agriculture mécaniste évoquée précédemment, s'opposent et se réaffermissent des pratiques agricoles plus traditionnelles, mais toujours capables d'innovation, qui ont été façonnées progressivement en découvrant la nature de chaque espèce animale et végétale et en tenant compte de ses liens mutuels. On peut penser à l'association agriculture-élevage, au paysage, à l'émergence des préoccupations de bien-être animal, au développement de l'agriculture biologique. Et d'ailleurs, sur ce point, rappelons la définition comme en creux de l'agriculture biologique donnée par le législateur français, agriculture n'utilisant pas de produits de synthèse. Mais c'est donc quoi l'agriculture biologique? Et on peut se référer à la définition peut-être plus adéquate des anglo-saxons, organic farming, afin de signifier justement la prise en compte judicieuse des liens de dépendance réciproques entre les plantes, les animaux et leur milieu. De manière générale, les diverses approches philosophiques scientifiques de la nature s'accordent sur la conception d'un univers ordonné, un cosmos pourvu d'une intégrité propre et d'un équilibre interne dynamique. Parallèlement, et on le voit bien aussi, en réaction à une lecture matérialiste et scientiste, la préservation de l'environnement est fréquemment mêlée au retour d'une religiosité multivariée, fondée entre autres sur une transcendance naturelle dont l'agir humain ne pourrait s'écarter durablement. Ce New Age écologique nourrit de nouveaux malthusianismes et vire, dans certains cas, à l'ésotérisme. Tout cela explique l'excessive prudence, voire le refus de considérer la nature comme une demeure éthique capable d'éclairer notre agir moral, individuel et collectif. Autant l'expression d'une rationalité mathématique inscrite dans la nature est largement reconnue par la communauté scientifique, autant évoquer l'idée d'une inscription d'une rationalité éthique est taxée de finalisme, voire d'une position archaïque, irrationnelle et dangereuse. Face à cela, je renvoie d'une part aux propos de Guy Paillotin, ex-président de l'INRA, qui dit ceci: « Je ne veux pas faire du finalisme un peu simpliste, je constate simplement qu'il y a de la cohérence dans les lois de la nature et que celle-ci n'est pas en complète disharmonie avec nos propres cohérences sociales. » D'autre part, à une autre idée suggérée par le jardin, celle d'un lieu, d'une demeure où l'on aime séjourner. Articulons l'ensemble en rappelant l'étymologie même du terme éthique qui renvoie à l'idée suivant laquelle demeurer, habiter dans un agir moral, suppose une demeure, un habitat, une communauté de convictions partagées. Celle-ci s'incarne dans un éthos social, ensemble des habitudes morales et des normes qui structurent nos sociétés. Et la nature fournirait en quelque sorte une préfiguration de cet éthos, préfiguration à la fois investie et transmise par l'activité agricole, mais préfiguration qui comporterait une part d'indétermination, garante en définitive de la liberté et de la créativité humaine. Cet éthos social, on le voit aujourd'hui, est relativisé, déstabilisé par le progrès des connaissances scientifiques, sciences humaines incluses. La synergie précédente entre habitudes et habitats est mise à mal, voire laminée par un relativisme éthique facilement véhiculé par l'extension marchande des relations sociales, contribuant au passage tant fustigé aujourd'hui vers une société de marché et réduisant in fine au silence la conscience collective. Mais si l'on admet cette vocation de l'agriculture à faire mémoire de cette préfiguration morale de la nature, l'on saisit mieux désormais pourquoi cet éthos agricole se trouve en première ligne des manifestations récentes de Seattle, de la contestation de cette société de marché, d'un rejet d'une fin de l'histoire qui lui appartiendrait, qui appartiendrait au marché, pour reprendre Fukuyama, et dont les propos récents illustrent froidement l'enjeu de la confrontation. Que disait Fukuyama récemment ? L'histoire ne peut s'achever aussi longtemps que les sciences de la nature contemporaine ne sont pas à leur terme. Et nous sommes à la veille de nouvelles découvertes scientifiques qui, par leur essence, même aboliront l'humanité en tant que telle. J'en viens à mon quatrième et dernier point. Drôle de manière, me direz-vous, d'en venir aux enjeux et perspectives pour l'agriculture de demain. Certes, cette vision précédente de Fukuyama explique en retour l'appréhension sociale actuelle quant aux possibilités des biotechnologies agricoles, les OGM, je n'en ai pas encore parlé, mais elle révèle surtout comme en creux l'urgente nécessité de retrouver et de s'accorder sur des modes d'appropriation de la nature et du vivant, à même de pouvoir contenir dans les deux sens du mot, intégrer et à la fois parfois repousser, contenir quoi ? Contenir un échange marchand, contributeur du bien-être pour l'humanité tout entière. Pourquoi et comment l'économie agricole, microcosme social récurrent qui cristallise nos préoccupations sociales, pourquoi cette économie se retrouve également dans ce challenge ? Tout d'abord le pourquoi. La nature est à tout le monde. On sait bien que la transformation, la sélection, la manipulation du vivant, de la nature par l'homme, procède toujours en effet d'un projet social qui a beaucoup évolué dans le temps, ne serait-ce que d'un point de vue économique. Survivre, se nourrir, commercer, s'enrichir, maîtriser les risques. Et en ce sens, la recherche agronomique et ses applications ont accompagné et accompagnent le projet social. Reprenant l'exemple des biotechnologies appliquées à l'agriculture et le cas emblématique des OGM, cette innovation manipulatrice du vivant semble précipiter, anticiper le projet social dans ses composantes sociologiques et économiques. Ne se contentant plus d'accompagner la demande sociale, le pouvoir innovant souhaite la régir, voire l'éduquer. D'où l'émergence de sursauts collectifs, parfois aussi divers qu'ambigus. Et c'est en particulier lorsqu'on vient, on en vient à bafouer politiquement, économiquement, cette assertion populaire suivant laquelle la nature est à tout le monde, que cette opinion publique, que ce consensus social sanctionne, voire rejette, une innovation trop privative du vivant, négligeant la dimension de bien public de celui-ci. Dimension, on l'a vu, par nature, difficilement privatisable, difficilement appropriable. Bref, une innovation se démarquant à la fois du projet social et des représentations courantes de la nature. Ce double écart renvoie comme en creux à deux composantes d'une nature appréciée comme instance morale. D'une part, cette assertion populaire, la nature est à tout le monde, revendique un partage équitable des ressources et de leur utilisation. Autrement dit, une exigence morale portée par la nature qu'il convient de discuter, de reconnaître, de mettre en œuvre par diverses médiations politiques et économiques. D'autre part, la nature ne cesse pas d'être l'objet d'émerveillement et de contemplation. Il en découle matière à suggestion pour une économie renouvelée de la nature et par là même de l'agriculture. En attendant ce jour, eh bien, l'économie rurale peine à sortir de la double ornière précédente. L'élan productiviste agricole initié à la fin des années 50 fut porté par une authentique charité sociale, pourrait-on dire. Le projet s'incarnait par la formation d'hommes compétents, professionnellement et responsables. La recherche de l'efficacité était le maître mot et il s'agissait d'un productivisme moral. L'élite professionnelle était conviée au service du prochain, l'autosuffisance alimentaire était d'intérêt national, de même que l'agriculture française et européenne se devait de répondre efficacement à la question devenue mondiale de la malnutrition. Certains ténors syndicaux pressentirent cependant rapidement le coût social de la modernisation agricole, ce qu'on a appelé le nécessaire exode rural, de même que les dérives individualistes possibles. Les premières tensions se cristallisèrent autour de la question de la taille de la ferme, qui devait s'accroître pour adopter la nouveauté technique et contenir la baisse des prix agricoles. La recherche d'une profitabilité à tout prix pouvait en outre se cacher facilement derrière les bonnes intentions précédentes, la rationalité marchande prenant peu à peu le pas sur l'idéal social véhiculé notamment par les syndicats. Enfin, l'économisme qui a peu à peu prévalu dans l'effort de développement agricole était porteur lui aussi d'une transcendance, celle apportée par le marché. Et donc, s'est révélée l'incapacité de résoudre un conflit de transcendance. Transcendance apportée par le marché et transcendance apportée par cette vision syndicale. L'idéologie libérale, eh bien, visant sournoisement à remplacer Dieu par le marché et la vérité par l'efficacité marchande. Certains méfaits avérés ensuite de cette agriculture productiviste sur la santé comme sur la préservation de l'environnement révèlent pour ses détracteurs la vacuité morale du productivisme agricole. Accusation irresponsable, rétorqueront d'autres, convaincus que seule l'extension de ce productivisme est à même de combattre la faim et la malnutrition. Pendant ce temps, la question éthique, elle aussi, est devenue mondiale, en incluant le développement agricole, endogène des pays en développement, leur accès équitable au marché, la préservation des ressources naturelles d'intérêt planétaire, bien au-delà de nos seuls terroirs ruraux franco-français. D'ailleurs, de tels soucis écologiques sont d'ores et déjà marchandisés et conduisent à une différenciation des produits et des marchés, dont la configuration future révélera sans doute les disparités évolutives des revenus, des ménages et des nations. Et à moins de céder à un néo-malthusianisme économique version consommateur, une qualité minimale ou la sécurité sanitaire sont des biens de première nécessité qui doivent être rendus accessibles à tous. C'est en ce sens que pourraient être réorientées les aides publiques agricoles afin de redorer, le blason moral d'un productivisme qui, sans se renier, laisse place également à des modes alternatifs de production. Et avant de conclure, je voudrais donc donner deux directives d'action pour ce renouvellement du productivisme agricole. Première directive d'action, c'est ce qu'on appelle donc recoupler le soutien public des économies d'échelle aux économies de gamme. Solution de moindre mal, ce recouplage du soutien public des économies d'échelle vers les économies de gamme s'exprime, c'est-à-dire de passer des bénéfices réassociés, ces bénéfices marchands et non marchands, qui peuvent résulter de l'association des productions. Rappelons-nous le modèle canonique agriculture-élevage. Mais on sait bien que si la réassociation des productions n'est pas de facto bénéfique à l'environnement, l'économiste agricole est en mesure aujourd'hui d'expliquer les mouvements de spécialisation et de concentration de l'agriculture européenne et de formaliser, en collaboration avec l'agronome, leur possible réversibilité en faveur de l'environnement et via une nouvelle modification des prix relatifs. Ne vaudrait-il pas mieux alors encourager et subventionner progressivement les économies de gamme liées à l'association des productions plutôt que les économies d'échelle liées à l'agrandissement unimodal des exploitations agricoles. La deuxième directive d'action, réhabiliter et actualiser la préférence communautaire entre États membres de l'Union européenne au niveau agricole. Réassocier les fonctions productives et environnementales de l'agriculture risque d'affecter la compétitivité internationale, au nom de laquelle se pérennise encore l'agrandissement des structures agricoles. Mais notre vocation exportatrice s'appuie encore sur une expression un peu surannée du principe de préférence communautaire destiné originellement à accroître la seule productivité agricole. Une inflexion politique pourrait se dessiner autour d'une réhabilitation de ce principe qui pourrait être acceptée au regard de l'OMC dès lors que nous révisons à la baisse nos ambitions d'une compétitivité externe in fine peu rentable pour certains produits agricoles de base. Autrement dit, viser à terme et multilatéralement avec les Américains une suppression des restitutions à l'exportation qui serait alors une sorte de prolongement jubilaire de la remise des dettes des PVD afin de faciliter à certains d'entre eux un accès à l'exportation de leurs propres produits. L'actualisation de la préférence communautaire, qui doit être défendue, viserait alors l'encouragement d'une productivité agricole et environnementale durable, en favorisant notamment les intraconsommations, fourrage, céréales, déjections animales, entre productions, lait, viande, mais également entre régions. Ceci apparaît d'autant plus souhaitable au regard de l'essoufflement observé dans certaines régions nord-américaines, de l'ex-URSS ou asiatique, essoufflement de la production céréalière, à cause justement des nuisances répétées à l'encontre de l'environnement, sol prématurément érodé, rareté de l'eau. Comme quoi, la préservation environnementale apparaît indispensable à une compétitivité durable de notre agriculture européenne. Laissez-moi encore 2 minutes pour conclure. L'agriculture en quête d'une conscience jubilaire. De telles mesures que je viens de décrire me semblent bien futiles, vous sembleraient bien futiles, me direz-vous, pour contrer une fin de l'histoire où la justice serait rendue par une dynamique marchande globalisée, où le paysan, suivant son habileté, n'aurait d'autre choix que de se retrouver spéculateur ou stakhanoviste, pour reprendre l'expression de Ladrière. Pour autant, il ne s'agit pas de réfuter la nécessaire autonomie de l'ordre économique, mais de reconnaître l'exigence d'y inscrire personnellement et politiquement les injonctions éthiques d'une conscience jubilaire, d'une remise à zéro des compteurs dans une économie libérale qui, régulièrement, doit reprendre la main à celle du chantre libéral. Les défaillances d'une justice procédurale renvoient de fait à la nécessité de délimiter de nouveaux contours pour rendre effectif la réciprocité des droits et des devoirs au sein de l'économie agricole. C'est ainsi qu'en prémisse se développent de nouvelles alliances entre marchés et marchés entre producteurs, consommateurs et protecteurs de la nature. Bref, une économie rurale qui réinvente un échange marchand local, contributeur de solidarité locale, voire extra-locale. Dans cette perspective, l'activité agricole n'est pas subsidiaire, elle est gardienne de la vie et tout autant d'une conception organique de la vie sociale que notre modernité a trop étouffée. Telle est l'ambition et la mission qu'il nous faut proposer, non pas tant à la PAC et à ses réformes, mais avant tout aux jeunes générations d'agriculteurs. Je vous remercie.
Bien, je vous propose, si vous souhaitez poser des questions, de lever la main et les appariteurs vont passer dans les rangs pour vous donner les micros.
Merci, bonsoir monsieur. Je suis tout à fait d'accord avec votre propos. Moi, j'ai eu l'impression que vous étiez en train de condamner Seattle et compagnie, toutes ces économies liées au marché. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous et je voulais vous poser deux questions liées à ça. En fait, la réponse éthique que vous abordiez, c'est-à-dire les soucis écologiques et compagnie, Ça va à l'encontre de toutes les vicissitudes de Seattle, enfin décidées à Seattle, enfin, ou qui auraient pu l'être. Et moi, je propose un truc, revenir au principe très, très simple, de donner de l'herbe à la vache et pas que de la viande. La vache n'a jamais été carnivore. Hein. C'est peut-être pour ça aussi qu'on a des problèmes.
Oui, bonjour monsieur. Moi, j'aurais une question plutôt, peut-être qui relève plus de l'économie par rapport à l'économie mondiale, parce que ce que vous avez dit, c'était quand même très intéressant. Mais j'ai l'impression que la manière dont vous avez exposé l'agriculture, en revenir un petit peu, comme dit monsieur, à l'herbe aux vaches, c'est bien, mais enfin, bon, il y a une compétitivité internationale auquel on est obligé de tenir compte, à ce qui me semble. Et que est-ce qu'il va y avoir d'un côté, entre guillemets, l'alimentation bio par rapport, en opposé à l'alimentation OGM, par rapport à des capitaux mondialisants, dont la France, en fait, va tôt ou tard se retrouver confrontée et va devenir un petit peu comme ça, j'imagine, un peu comme les Américains avec des capitaux. Qui seront européens, mais qui seront même plus français en quelque sorte. Et deuxièmement, est-ce que le fait qu'en France il y a un développement des sels, est-ce que c'est un côté historique? Est-ce que c'est un petit peu justement la peur de cette agriculture OGM ou mondialisante? Ou est-ce que c'est à quoi en fait c'est dû? Et si elle se développe, quelles sont les retombées économiques nationales et internationales? Enfin, par rapport. Parce que si elle se développe en France, elle peut aussi se développer au sein de l'Europe et puis un peu partout. Parce que j'imagine qu'il n'y a pas que la France qui est confrontée à ce genre de situation au niveau de l'agriculture. Voilà, merci.
Monsieur, simplement, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de vous dire que je n'embrasserai pas votre cause si simplement je vous demande l'orthographe de son nom et la référence de ses ouvrages.
Les marchés agricoles, je pense qu'ils sont bouchés partout. Avant, il y avait possibilité pour un agriculteur qui débutait de pouvoir commencer à vendre sa provision dans l'environnement immédiat de son village ou des villages aux alentours. Maintenant, pour vendre ses produits, il faut vendre à des grosses organisations. Comment est-ce que vous proposez de passer ce cap, de se débrouiller pour arriver à vendre une petite production qui ne correspond pas aux productions qui sont achetées par un gîte ou par des grosses firmes.
Voilà. Bon, je vais te répondre à ce groupe rapidement de quatre questions, sachant que ces quatre questions sont tout à fait pertinentes. Je répondrai à la troisième cause. C'est important je n'adhère pas à la vision causienne, vous l'avez vu, du moins je pense que vous l'avez remarqué, mais c'est pour expliquer l'avantage de cause, c'est de montrer, je dirais, que finalement, que si rien n'est fait, s'il n'y a pas de régulation politique de la question environnementale, eh bien, le marché s'en charge. Mais c'est un marché sauvage. Et tout notre rôle à nous, et c'est pour répondre à la première question, c'est de ne pas avoir, face au marché, c'est un peu notre culture française, une vision souvent un peu manichéenne. C'est-à-dire, ou le marché, c'est mal, c'est vraiment, c'est pas bien, ou alors, c'est l'ultra-libéral, c'est le tout-marché. Il faut que nous réapprenions, je dirais, à apprivoiser le marché, parce que le marché n'est qu'un instrument. C'est-à-dire à sortir, et je pense que ça a été l'un des enseignements de Seattle, à sortir d'une vision fataliste de la dynamique marchande. Le marché, la résultante du marché, les prix qui se réalisent sur les marchés, résultent de la multiplicité d'interactions des producteurs, des consommateurs que nous sommes. Et donc là, à mon sens, c'est tout l'enjeu, je dirais, que rappelle l'agriculture. Alors, la deuxième question de personne, c'est vrai que les enjeux sont très importants et que tout l'enjeu, finalement, pour résumer, parce que vous avez très bien posé la question, des négociations agricoles dans le cadre de l'OMC, c'est justement montrer qu'une réorientation de l'aide publique à l'agriculture, eh bien, loin de, je dirais, de rendre davantage grossier le marché mondial, va au contraire le subtiliser. Et on se rend compte, et c'est la quatrième question, je réponds très rapidement, parce qu'il y a d'autres questions qui viennent. Justement, on se rend compte aujourd'hui que des agriculteurs, notamment, qui cherchent finalement à se dériver, à s'écarter d'une vision de production de masse, qui, en s'associant avec d'autres agriculteurs, en prenant conscience finalement qu'ils peuvent avoir des marchés pour des produits de qualité, non pas forcément en visant le bio, eh bien, ces agriculteurs, ces producteurs, les consommateurs qui y répondent, eh bien, créent de nouveaux marchés. Je peux vous donner un seul exemple. Le prix du porc à Plérin en Bretagne est environ de combien ? 6 francs le kilo, 6 francs 10. Ce qui assure une faillite de très importants producteurs de porc, depuis 2 ou 3 ans quasiment. Le prix du porc élevé dans des bonnes conditions écologiques, avec un cahier des charges très précis, par le porc bio, est vendu à plus du double. Et il y a une insuffisance de l'offre de production. Vous voyez, un simple chiffre. Autrement dit, nous sommes un peu dans cet aggiornamento et à une réorganisation des marchés. Mais ce que je veux, le message que je veux bien dire, c'est ne pas en rester à une vision fataliste du marché. Le marché est un instrument, on n'y échappe pas. Et l'agriculture aujourd'hui, les agriculteurs et nous-mêmes sommes là justement pour le cadrer, pour le subtiliser.
Je voulais vous poser quelques questions au sujet du marché. Est-ce que la monoculture est une très mauvaise chose du fait que finalement, comment dirais-je, Darwin l'a bien montré, il faut une diversité des espèces et donc une diversité des agricultures. Deuxièmement, concernant toujours le marché, même dans les pays très libéraux, il y a eu des lois antitrust. Donc une économie totalement libérale aboutit finalement, non pas à un marché, mais à des trusts et donc à des, comment dirais-je, des gens qui ont un monopole de quelque chose. Troisième question concernant les OGM. Est-ce que quand même des pays comme la Chine ou, comment dirais-je, les problèmes sont de famine ne sont pas en point d'interrogation, mais sont réels. Est-ce qu'il ne faut quand même pas diaboliser les OGM, puisque finalement l'évolution a toujours fait qu'il y a eu des manipulations génétiques, non pas par l'homme, mais par la nature. Autrement, il n'y aurait pas eu d'évolution. Et ben, c'est tout ce que je voulais vous demander.
Oui, je voudrais... D'abord, on parle de l'OGM, etc. C'est quand même le triomphe de la science, ou disons pas le triomphe, le résultat de la science. Parce que les OGM, ça sert aussi au cancer, à Alzheimer et tout ça. Actuellement, c'est en pleine effervescence. Donc, il n'y a pas qu'un aspect là-dedans. C'est toujours cet aspect totalitaire. On interdit. On finit par être paralysé, auto-paralysé complètement. Bon, autre chose, alors, est-ce qu'il est possible, puisque tout est possible, on fait des guerres mondiales, on fait des choses où la moitié de la population disparaît, donc, moi, je pense à l'origine de l'agriculture, s'il y avait la cueillette, bon, ces gens-là, il paraît qu'ils n'avaient pas de caries, alors, le principe de précaution appliqué à l'époque aurait peut-être amené à des façons différentes de travailler. Cependant, l'agriculture, c'est un peu le résultat de l'augmentation de la population. Il fallait les nourrir à tout prix, les
familles. Est-ce que vous pouvez poser votre question, s'il vous plaît ?
Bon, alors, la question, peut-on revenir à quelque chose comme la cueillette ou des genres d'économie comme ça, où on éviterait l'emploi de produits chimiques trop importants ?
Voilà, pour la cueillette, vous savez que certains pays, certaines régions ne sont pas encore, je dirais, démarquées d'une économie de cueillette d'autosubsistance dans bon nombre de régions du monde. Concernant les OGM, je ne suis pas un anti-OGM ou un totalitaire de l'OGM. Les OGM, d'ailleurs, ne sont pas forcément... Pour l'instant, il y a une suspension de commercialisation de certains d'entre eux. Mais je reviendrai justement au substrat théorique que vous avez posé, la théorie de l'évolution. Certains écologistes, scientifiques, pose la question suivante. Est-ce que, finalement, on a bien délimité, démarqué et étudié la solution proposée par la nature dans cette vaste évolution avant, éventuellement, de la modifier génétiquement ? Et donc ça, je pense que c'est une question très intéressante sur laquelle, je dirais, se penchent les scientifiques aujourd'hui. D'autre part, les OGM actuellement en passe ou mis sur le marché ne sont pas aujourd'hui censé répondre à la question de la malnutrition. Il ne s'agit pas d'OGM, il s'agit davantage d'OGM qui, dans certains cas, contribueraient à réduire certains risques environnementaux. Par rapport à la question du trust et du monopole, c'est une bonne remarque, et l'un des fusils d'artillerie lourde de l'Union européenne dans les futures négociations commerciales avec les Américains, avec les Australiens, ça sera justement de critiquer une part de leur société de commercialisation qui, d'une manière plus ou moins déguisée, continue finalement à subventionner ces exportations. Et donc, ce n'est pas une sorte de monopole, mais quelque part, effectivement, on a à faire face à une logique conflictuelle quasiment de trust, de lobbies d'intérêt sur lesquels l'Union européenne y voit de plus près.
Bien, on va prendre une dernière question.
Bonsoir. Si j'ai bien compris, il faudrait plus d'agriculteurs sur des surfaces plus petites. Comment est-ce que vous pensez que qu'on va pouvoir convaincre les gens de retourner à l'agriculture alors que l'exode rural a commencé au début du siècle, que les gens se sont beaucoup urbanisés? Et est-ce que vous pensez qu'il va y avoir des candidats comme ça à revenir à la terre et puis à essayer de pratiquer une autre agriculture?
Alors, ce n'est pas la seule solution que je propose, ce n'est pas une solution, mais ce que vous évoquez est déjà une réalité. Savoir qu'il y a des jeunes issus de familles non agricoles qui s'installent à la terre. Ce n'est pas évident, mais dans certains cas, ça réussit. Et donc, je pense qu'il faut les encourager. Mais surtout, ce que vous dites évoque le fait que l'agriculture, être agriculteur, relève véritablement d'une vocation, d'un choix de sobriété, et qui n'est pas simple et qui est véritablement à encourager aujourd'hui. Mais cette réalité-là, elle existe aujourd'hui et j'en suis témoin tous les jours.
Je vous remercie. Bonne soirée.